Europe 1, en balade avec Philippe Jarouski. Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, c'est le plus célèbre contre-ténor de notre époque qui nous emmène en balade aujourd'hui. Philippe Jarouski fête ses 20 ans de carrière en sortant un triple CD, un livre d'entretien, Seul contre la musique, et en faisant son entrée au musée Grévin. Il nous a donné rendez-vous au Théâtre des Champs-Élysées, au lieu de la musique classique à Paris depuis un siècle, où il se produira trois fois l'année prochaine.
Frédéric Taddeï, en balade avec Philippe Jarouski sur Europe 1.
Bonjour Philippe Jarouski.
Bonjour.
Nous voilà dans les coulisses du Théâtre des Champs-Élysées. C'est quoi vos meilleurs souvenirs ici?
Alors j'en ai plein, je crois que ça fait plus de 20 ans que je chante ici, que j'ai la chance de chanter ici.
Alors il fallait savoir, je crois que c'était vos 20 ans de carrière, et là vous venez de m'avouer qu'il y a plus de 20 ans que vous chantez ici.
Ça fait presque plus de 20 ans, oui. Je pense que j'avais 21 ans, je pense que...
Et vous en avez combien maintenant?
Je vais bientôt avoir 42 dans quelques mois. D'abord, c'est un théâtre qui est assez impressionnant par la taille, parce que...
Oui, là, c'est gigantesque. Au-dessus de nous, on est sur la scène, derrière la scène. Là,
c'est ça. Quand on voit le public, on pense qu'il y a à peu près 1500 personnes, mais c'est un théâtre qui a presque 2000 personnes. Il y a plus de 1900 places dans ce théâtre. Donc, c'est un théâtre qui a une conception assez moderne pour son époque, qui est chargé d'histoire. Et moi, j'ai commencé par faire des petits rôles. Et puis, Michel Franck, qui travaillait déjà à l'époque avec Jeannine Rose, qui n'était pas encore le directeur, me produisait déjà dans des concerts, m'a donné mes premiers récitals ici. Et continue, j'ai fait pas mal d'opéras ici, avec William Christie, avec...
Avec William Christie, il a mis longtemps avant de vous prendre.
C'est vrai, mais j'ai fait ce Saint-Alessio avec que des voix d'hommes ici aussi.
Oui, c'est un DVD maintenant.
Et puis Théodora, et puis j'ai fait récemment L'Orphée de Gluck dans une mise en scène de Carsen. J'ai pas mal d'autres projets ici, puisque je pense qu'on peut l'annoncer, je ferai mon premier opéra en tant que chef. Je dirigerai mon premier opéra ici dans cette fosse et je pense que j'aurai beaucoup plus le trac en tant que chanteur. Ça sera en 2022. Mais je ne peux pas dire encore quoi, évidemment.
Mais vous ne m'avez pas dit vos mauvais souvenirs.
Ah, mauvais souvenirs, oui, j'en ai eu aussi. J'ai eu quelques concerts où, comme ça peut arriver à tous les artistes, on est un petit peu malade ou pas très en forme. Je me rappelle la Rinaldo où j'ai beaucoup souffert pour arriver à la fin. Et j'ai été aussi beaucoup soutenu, mais ça n'a pas été facile.
Parce que souvent, on en parlait avec Nathalie Dosset, qui a fait cette émission il y a peu.
Oui.
Elle disait à quel point le public du classique est impitoyable. Il est capable de siffler cruellement les artistes.
Oui, c'est vrai.
Ce que le public du rock ou de la variété ne fait jamais.
Alors, siffler, non. Mais en général, quand le public est un peu déçu, on le sent, nous les artistes. Le public du Théâtre des Champs-Élysées est un public exigeant. Notamment en ce qui concerne d'ailleurs la musique baroque, parce qu'il y a beaucoup de baroque qui se fait ici. C'est une acoustique aussi qui a beaucoup évolué ces dernières années. Il y a eu beaucoup de travaux de fait. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé mes premiers concerts ici, tout le parterre était en velours. On a remis du bois. Je me sens mieux maintenant d'ailleurs. C'est plus facile pour moi de chanter ici qu'avant.
Europe 1, en balade avec Philippe Jarouski. Frédéric Taddeï.
Vous avez vos petits rituels, vos petites habitudes avant et après monter sur scène. Là, on est sur scène, hein, quasiment. On est juste derrière, là.
Oui, on est, je ne sais pas. D'ailleurs, c'est Doette, je crois, c'est les Noces de Figaro en ce moment, je crois.
Ouais. Et il est magnifique, ce théâtre.
J'aperçois
maintenant les fauteuils rouges.
On y est très confortable.
Une salle circulaire.
C'est très enveloppant. Et c'est très agréable. Alors là, vous voyez un petit peu ce que je ressens quand je chante ici. Je m'imagine toujours quand je chante ici que finalement les balcons en fait sont c'est un petit peu technique, correspondent un petit peu à la largeur de ma mâchoire.
Ah oui, je comprends pourquoi. Oui, ça a une forme comme ça.
Voilà, et ça m'aide un petit peu à prendre un peu tout l'espace de façon l'espace.
On vient d'allumer les lumières sur nous.
Voilà. Toujours un peu impressionnant. Ce qui est très important, c'est que comme nous, les chanteurs classiques, on chante sans micro. Il faut rester très calme et ne pas essayer de projeter la voix trop à l'extérieur. Et justement, de prendre cet espace comme quelque chose qui vous enveloppe, ça aide à rester en fait à l'intérieur de soi. Je sais que quand je ne suis pas en forme, c'est une salle difficile. Et quand je suis en forme, c'est une salle très agréable.
Alors les petits rituels pour être en forme ?
Alors les petits rituels, ils commencent souvent dès la veille. Dormir beaucoup, pas parler. Moi, je sais que j'aime pas trop réveiller la voix. J'ai des collègues qui réveillent la voix dès 9h du matin quand ils ont un concert à 20h. Moi, non, c'est peut-être mon côté feignant, j'en sais rien, mais des fois, ça me...
C'est quoi, réveiller la voix ?
Ben, faire ces exercices, déjà, pour chanter. Moi, j'essaye de ne pas commencer à parler avant midi, 13h. Maintenant, je suis capable de réveiller ma voix pour un récital en 10 minutes. Avant, il me fallait une heure. Maintenant, j'ai des exercices qui me permettent de réveiller toute la tessiture de la voix sur 10 minutes. Et puis, j'ai mes petits tics qui sont un peu bizarres. Le tic que, d'ailleurs... tout le monde connaît dans le métier, c'est que je repasse moi-même mon costume. Alors, je demande toujours une planche et un fer à repasser. Et ça m'aide, en fait, beaucoup, parce que d'abord, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, je suis sûr qu'au moins, c'est bien fait. Et deux, j'ai l'impression que le fait de me concentrer sur autre chose, plutôt que de penser qu'à la voix, ça m'aide.
Et après, le spectacle ?
Ici, c'est particulier aussi, parce que souvent, ici, après un spectacle, on fait des séances de signature qui durent souvent assez longtemps. Une heure et demie, voire plus. Donc, on pourrait dire que c'est une troisième mi-temps, presque. Hein. On a les deux parties du spectacle et aussi la rencontre avec le public.
Les troisièmes mi-temps sont plus arrosées.
Voilà, ouais. Voilà. Et le prochain challenge ici, il est d'envergure, puisque je me lance dans une nouvelle aventure, puisque je ferai mon premier récital de leader de Schubert cette scène en janvier. Voilà, donc un récital... un petit peu hors du commun pour un contre-ténor. Donc voilà, je pense que j'aurai la pression aussi.
Une dame est en train d'étendre du linge sur une corde. Je pense que ça fait partie du décor. On va la laisser travailler. Vous m'emmenez voir Michel Franck, le directeur.
Ah oui, avec plaisir.
On se retrouve dans un instant.
Frédéric Taddeï, en balade avec Philippe Jaroussky sur Europe 1.
Nous sommes à présent au 7e étage du Théâtre des Champs-Élysées, 15 avenue Montaigne, dans le bureau de Michel Franck, le directeur de cet endroit mythique, hein, inauguré en 1913, où il y a eu tant de scandales, dont on se souvient encore, le Sacre du Printemps de Stravinsky, Désert d'Edgar Varèse en 1954. Bonjour Michel Franck.
Bonjour.
Vous l'avez quasiment vu débuter, ce garçon
Pas quasi, je crois. Hein,
je l'ai vu débuter en sopraniste avec Jean-Claude Malgoire dans un opéra de Vivaldi, en faisant presque des contrutes, si j'ai bonne mémoire.
Oui, presque, hein. Déjà à l'époque, c'était difficile les contrutes.
C'est une prouesse de faire un contrute ou au contraire,
pour un contre-ténor, oui. Pour une soprano aussi, souvent, mais pour un contre-ténor tout particulièrement.
Je pense à tous les scandales qu'on se bagarrait au Théâtre des Champs-Élysées le soir de la première du Sacre du Printemps, les pour et les contre.
Oui, il y en a eu encore récemment, quand on a présenté à l'automne 2012, je crois, le Médée de Cherubini dans la mise en scène de Christophe Warlikowski, le spectacle a dû s'interrompre parce qu'il y a des gens qui s'invectivaient dans la salle. Donc,
ça... Je crois que c'était fini, alors c'est plutôt une bonne nouvelle.
Et non, ça continue et c'est bien.
On peut encore faire scandale.
On peut toujours faire scandale et nous travaillons tous dans le spectacle vivant et je trouve que le mot vivant est indispensable. Et moi, quand le public réagit en bien ou en mal, je trouve ça absolument fondamental. Et quand parfois un public manifeste son mécontentement à la fin du spectacle, je trouve ça bien, c'est du spectacle vivant.
Mais de là à se battre pour de la musique, on se demande
les gens se sont
si
pas
c'est une preuve d'amour ou si c'est de la bêtise.
Les gens ne se sont pas battus physiquement.
Ils se sont battus pour le Sacre du Printemps.
Verbalement, oui, il y a eu quelques heure, mais là, les gens sont un peu plus civilisés, peut-être
on,
maintenant.
On s'est pas battu pour ou à cause de vous, Philippe Jaroussky encore ?
Pour.
Ça, j'en sais rien, mais.
Pour avoir des places.
Pour avoir des places, peut-être, c'est vrai.
Europe 1, 11h30, en balade avec Philippe Jaroussky, Frédéric Taddeï.
Une qui avait choqué ici, on l'oublie toujours, c'est Joséphine Baker aussi, la Revue Nègre. Joséphine... Quand elle danse seins nus, ici en 1925, ça a été un sacré événement. Elle est restée en France d'ailleurs, tellement elle a trouvé ça agréable.
Effectivement, il y a beaucoup de mises en scène maintenant qui transposent l'action, que ça soit la récente Bohème à l'Opéra Bastille sur la Lune, ou l'enlèvement au Sérail à Aix-en-Provence, où on était chez les talibans avec Daesh. Donc ça fait hurler les gens, en même temps ça fait avancer le spectacle. Et là, en ce moment, récemment, nous sommes dans une production des Noces de Figaro, mise en scène par James Gray, qui est revenu aux fondamentaux et qui présente une mise en scène, je dirais pas classique, parce qu'elle est
James
pas
Gray,
du tout
le réalisateur de cinéma.
Le réalisateur de cinéma, mais qui est revenu vraiment au temps de Mozart et de Beaumarchais. Et il y a des gens qui trouvent ça très étonnant de revenir à une production entre guillemets classique, parce qu'évidemment il y a une direction d'acteur qui fait ressentir un certain nombre de conflits sociaux évidents dans le texte de Beaumarchais d'Aponté. Mais les gens sont aussi surpris quand la mise en scène est classique. Donc finalement, c'est ce que je disais à l'instant, le spectacle est vivant, il y a des gens qui sont pour et contre, et c'est formidable.
Est-ce qu'il a fait des progrès, Philippe, depuis que vous le connaissez ?
Heureusement qu'on est tous en constant progrès. Vous connaissez cette phrase de Beckett, qui est pour moi une espèce de phrase emblématique dans la vie. Essayez encore, ratez mieux.
Oui, mais souvent on se dit, les interprètes, au fond, parfois, pas tous, mais il y en a certains, ils sont géniaux à 20 ans, à 25 ans, ils le sont moins après. Regardez Paul McCartney, par exemple. Écoutez, je suis pas sûr qu'il a fait des progrès.
Oui, alors je ferais une différence entre Paul McCartney et peut-être des artistes classiques. On oublie souvent que des artistes classiques sont des interprètes. Ils interprètent une musique qui est écrite. Et donc, moi je trouve que l'interprétation, elle gagne avec les années. Peut-être qu'on peut perdre pour certains artistes, et c'est pas du tout le cas de Philippe, bien au contraire, en qualité vocale au fur et à mesure que les années avancent, mais on gagne en intensité émotionnelle parce que le vécu de chacun des artistes apporte quelque chose sur scène, et qu'à 20 ans on n'a pas vécu la même chose qu'à 40 ans ou qu'à 50 ans, donc les émotions qu'on est capable d'apporter sur scène sont différentes et en général sont plus riches.
Vous êtes d'accord, Philippe Jarouski ?
Oui, bah la voix, elle évolue avec l'âge, avec le corps, avec l'expérience. Moi, j'ai beaucoup appris aussi en écoutant énormément de chanteurs autour de moi. Je me suis aussi beaucoup posé de questions, et je pense que Michel sait très bien ça. Il a entendu ma voix évoluer, d'ailleurs, dans ce théâtre. Des fois, il me disait, effectivement, ta voix a gagné par rapport encore il y a 2 ans. Mais c'est vrai que des fois, j'écoute des enregistrements que je faisais il y a 20, à 22, 23, où la voix était très flexible, très fraîche. Disons que peut-être que j'ai peut-être pas exactement la même vélocité ou rapidité, mais je pense avoir plus exprimé des sentiments, un texte avec la voix. Et ça, je pense que c'est vers ça que j'ai envie aussi de me diriger de plus en plus. Et puis, Michel m'a vu aussi faire mes premiers pas à l'opéra, ce qui est très différent du récital. Et c'est vrai que j'avais du mal à poser un pas devant l'autre. Être un acteur, ça a toujours été quelque chose de plus difficile pour moi que d'être musicien. Et il m'a fallu beaucoup d'années pour trouver mon chemin à l'opéra.
Vous n'avez pas fini avec ce théâtre, puisque vous y serez 3 fois l'année prochaine. Hein. Le 24 janvier, vous me le disiez.
Je ne vais pas m'en plaindre.
Les Lieder de Schubert, le 30 avril, Monteverdi, le 15 mai, Handel et Vivaldi. 3 fois dans l'année.
Philippe est là 2 ou 3 fois par saison, soit en scénique, soit en version concert. Et bientôt, dans un futur assez proche, en tant que chef d'orchestre.
Oui, c'est ce qu'il nous a dit. Oui, ce sera en 2022, hein, c'est ça ?
Ça sera en 2022.
Eh bien, nous allons partir en balade avec Philippe Jarouski. Merci, Michel Franck.
Merci à vous.
Et on se retrouve tout de suite, dehors.
Frédéric Taddeï, en balade avec Philippe Jarouski sur Europe 1.
Nous voilà ressortis du Théâtre des Champs-Élysées par l'entrée des artistes avec Philippe Jarouski en... On arrive sur l'avenue Montaigne, illuminée pour Noël, l'une des avenues les plus chics de Paris, où sont toutes les boutiques de luxe. Vous faites vos courses en ce moment pour Noël ?
Pas trop, j'avoue. Pas trop.
Par avarice ou parce que vous vous désintéressez ?
Non, je crois que je fais un petit peu comme tout le monde. Je dis toujours chaque année que je vais m'y prendre plus tôt, et puis je suis comme un fou le 23 en train de courir partout.
vous prenez les avions sans arrêt ?
Oui. En plus, là, j'ai eu l'occasion de voir le Black Friday aux États-Unis, et c'est assez impressionnant. Hein. Les gens se battent et font la queue des heures pour entrer dans les magasins. C'est assez impressionnant et un petit peu désespérant à voir, j'avoue.
Philippe Jarouski, vous êtes un contre-ténor. C'est la voix masculine la plus aiguë. Leur âge d'or, c'était pendant la période baroque, hein, mais c'est revenu depuis le milieu du XXe siècle. Vous avez eu de la chance, hein. Il fut un temps où c'était considéré comme ridicule, suranné, on appelait ça chanter comme ces hommes qui chantent comme des femmes.
Oui, et d'ailleurs...
Une voix de fossé, c'est-à-dire une voix fausse.
D'ailleurs, oui, exactement, j'ai toujours détesté ce mot de fossé. J'ai une voix de tête, un peu comme les voix de soprano féminine.
Mais une voix de tête à la différence de la voix de poitrine. Là, vous parlez avec votre voix naturelle, votre voix de poitrine.
Exactement.
La voix de tête, c'est quand vous chantez.
Voilà. Et c'est la même chose pour des grandes sopranos, peut-être à part la Castafiore qui chante en tête, qui parle aussi en tête. Mais par exemple, c'est vrai que c'est une voix qui est beaucoup plus connue maintenant, les voix de contre-ténor. Mais dans le monde lyrique, on a aussi nos détracteurs. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui, même pour le répertoire des castrats, préfèrent des voix de femmes comme
Cecilia
Bartoli ou Josie Donato. La voix, que ça soit, je trouve le classique ou la pop, c'est vraiment épidermique. On aime ou on n'aime pas une voix, et ça s'explique pas des fois. C'est vraiment.
On n'aime pas la voix de contre-ténor, on n'en aime aucune parce qu'en fait, on trouve que les voix à l'opéra se ressemblent toutes. On a du mal à faire la différence, alors qu'on l'a fait évidemment pour les chanteurs de rock, les chanteurs de jazz.
Alors évidemment, oui, nous, peut-être, moi je suis entraîné, je reconnais les voix quand je les entends à la radio, mais on dit souvent aussi d'un chanteur d'opéra, surtout quand on le voit à la télévision, qui fait beaucoup de grimaces quand il chante. Et c'est vrai que moi, des fois, il peut m'arriver aussi de me regarder et je me fais parfois aussi un peu peur.
Frédéric Taddeï se balade avec Philippe Jaroussky sur Europe 1.
On a traversé la place de l'Alma par un beau temps froid et sec.
Ouais, magnifique.
On se dirige vers le palais de Tokyo avec Philippe Jaroussky.
On est dans le béton aujourd'hui, en fait, j'ai réalisé, parce que je vous propose d'aller que dans les endroits en béton, parce que le théâtre des Champs-Élysées est le premier théâtre en béton armé de Paris. Là, on va au palais de Tokyo, qui est aussi une architecture en béton. Et on ira après à la scène, qui est quand même
la scène musicale.
C'est vrai.
Il n'y a que vous pour remarquer des détails comme ça. Il y a eu un grand moment pour vous, Philippe Jaroussky. C'est en 2007. Vous êtes Salle Pleyel et vous chantez Vedro con mio diletto, un air fameux de Vivaldi. Vous êtes filmé, comme on l'est souvent aujourd'hui.
Oui, c'est tout le sur de la musique. Oui.
Voilà. Et cette vidéo, une fois sur Internet, va faire le tour du monde, devenant le premier succès planétaire pour un air d'opéra. Elle en est à 7 millions de vues aujourd'hui, avec les différents partages.
Oui.
Il n'y a que la Callas et Pavarotti qui ont fait mieux. On vous écoute dans Vedro con mio diletto. Ça veut dire quoi ?
Je verrai avec ma bien-aimée, en fait, mon mio diletto, mon plaisir, ma bien-aimée.
Europe 1, 11h30, en balade avec Philippe Jaroussky.
C'était Philippe Jaroussky qui interprétait Vedro con mio diletto, célèbre air de Vivaldi. Quand cette vidéo a commencé à, à être viral, comme on dit. Vous en souvenez ?
Oui, alors j'avoue que c'était plus facile d'être viral à l'époque, puisqu'on était finalement au début de YouTube.
De YouTube, voilà, de Dailymotion.
Maintenant, c'est peut-être plus difficile d'avoir une vidéo qui fait un
grand
nombre
de vues rapidement. C'est simple, il y a quasiment que la Callas et Pavarotti qui vous battent.
Voilà, hein. Et c'est vrai que là où je suis content, c'est que vous dites vous-même que c'était est très connu, et en fait, il ne l'était pas du tout à l'époque.
Ah oui, c'est vrai.
Et je dois dire que ça fait partie peut-être de la fierté d'un artiste quand on rend un air comme ça.
Oui, parce qu'aujourd'hui, tous les contre-ténors l'enregistrent.
Ah oui, beaucoup. Et j'ai peut-être apporté un air.
Mais cet air vous a aussi apporté beaucoup, j'imagine.
Oui.
Une grande partie du public qui vient vous applaudir aujourd'hui.
Et Vivaldi en général.
Monde, à travers le monde. Ouais. C'est parce qu'il vous a entendu sur cette vidéo.
Bah, je dis que Vivaldi a été probablement mon meilleur agent.
Oui.
Et il continue d'ailleurs parce que. Des fois, il m'arrive évidemment de chanter plein d'autres répertoires et des fois, une partie du public vient me voir et me fait « Quand est-ce que vous rechantez Vivaldi, en fait ?»
Bah, ça a été la Vivaldi mania qui a fait de vous une star.
Oui, et ça, on le doit d'ailleurs à l'album de Cecilia Bartoli qui, je crois, s'est vendu à quasi 1 million d'exemplaires, ce qui est phénoménal.
Le Vivaldi album, ça s'appelait.
Exactement. Et à l'époque, on ne connaissait pas du tout les opéras de Vivaldi. On connaissait évidemment le Vivaldi violoniste des 4 saisons et de tous ses concertos. On avait complètement oublié que c'était aussi un grand maître de l'opéra.
Et un prêtre.
Et un prêtre. Et un prêtre un peu cavaleur d'ailleurs.
On se retrouve avec Philippe Jarouski dans un instant, en direction du Palais de Tokyo.
Frédéric Taddeï, en balade avec Philippe Jarouski sur Europe 1.
Nous marchons maintenant sur l'allée centrale. De l'avenue du président Wilson, là où se tient habituellement le marché. Il a été, il est vide là, hein, mais c'est quand même assez joli.
C'est très joli et là je reviens d'une tournée aux États-Unis et je crois que je suis définitivement un Parisien d'adoption comme beaucoup, parce que je suis né en banlieue parisienne, pas très loin, mais je m'imagine pas quitter Paris tout de suite. C'est vraiment. Comme
c'est les marchés qui vous feraient regretter cette ville.
Je crois que je suis comme tous les Parisiens, c'est une ville qui m'agace mais que j'aime profondément.
On parlait des contre-ténors, vous en êtes un de la plus belle espèce, peut-être aujourd'hui le contre-ténor le plus célèbre du monde. C'est dans les années 80.
Bah, c'est pas un mot très joli d'ailleurs, contre-ténor, c'est un peu négatif. Il faudrait peut-être trouver une autre formulation d'ailleurs.
C'est dans les années 80 que les contre-ténors ont commencé à chanter avec de grands orchestres. Et au fond, on a considéré le contre-ténor comme n'importe quelle voix, alors qu'avant, c'était très exotique, voire combattu.
Oui. Et c'était, on considérait qu'un contre-ténor avait une petite voix, avec une petite tessiture, destinée à un petit répertoire. Et puis, certains contre-ténors ont prouvé le contraire. Et maintenant, vous avez des contre-ténors qui ont des voix plus puissantes que certaines soprano, mezzo, femme. Et puis, il y a des contre-ténors qui font des grandes carrières d'opéra. Là, par exemple, j'ai fait il y a quelques mois mes débuts à la Scala de Milan. Et on était 4 contre-ténors dans la production. Et
vous êtes en train de vous emparer de tous les répertoires.
En tout
les
cas,
uns après les autres, ils tombent.
On prend tout ce qu'on nous donne, ça c'est sûr.
Mais en même temps, ça s'est banalisé, c'est moins exotique qu'avant.
Ça s'est banalisé et en même temps, comment dire, c'est une voix qui fait encore un peu rêver parce que c'est une voix qui est quand même, qui reste encore, je dirais, pas asexuée, mais. Entre l'enfant, l'homme et la femme. On n'arrive pas trop à savoir et je pense qu'il y a une partie du public qui suit cette voix contre-ténor parce que quelque part ça les fait rêver.
Europe 1, 11h30, en balade avec Philippe Jarouski, Frédéric Taddeï.
On approche du palais de Tokyo, commence à entendre les skateboards qui résonnent sur le parvis. Devant la scène, c'est un des hauts lieux du skateboard.
Alors je vous rassure, je ne viens pas pour ça.
Jamais fait.
Je ne suis pas un très grand skateur. Non,
c'est vrai. Pourtant, c'est votre génération.
C'est vrai. Non, j'ai mis une fois les pieds sur des skis et je m'en souviens encore. Donc la glisse, c'est pas trop, c'est pas trop ça.
C'est quoi votre sport alors, vous, à part chanter
On va dire la télé.
Ça,
non, j'ai toujours été un très grand à sportif et c'est d'ailleurs probablement, je le regrette des fois parfois,
Asportive, vous dites.
Oui, parce que...
Churchill disait no sports.
Ah, voilà. Mais c'est vrai qu'on dit... On parlait tout à l'heure de l'opéra, et c'est vrai qu'on parlait des mises en scène modernes. Et c'est vrai que maintenant, on demande beaucoup aux chanteurs, on leur demande parfois, effectivement, d'être presque acrobatiques sur scène. Et malheureusement, ça, c'est quelque chose qui m'échappe. Mais il m'arrive de danser sur scène et c'est déjà un exploit.
Mais vous avez toujours beaucoup fréquenté les nightclubs, les discothèques de masse.
Alors, j'ai toujours aimé la nuit.
Ouais.
J'ai toujours aimé la nuit et d'ailleurs...
Pas que la nuit dans les boîtes de nuit.
Oui, mais...
Il n'y a pas honte.
Je pense que, voilà, Frédéric, vous savez très bien que le temps passe différemment la nuit. Le rapport aux autres est très différent aussi. Et moi, j'ai toujours aimé, par exemple, après un concert, me retrouver effectivement dans une boîte de nuit et être finalement... passer vraiment de l'autre côté et d'être plus être le centre du regard, mais que moi je regarde les autres. Et là, c'est vrai que je connais c'est la discothèque qui est au Palais de Tokyo, le Yo-Yo.
Sous le Palais de Tokyo.
Où il y a, voilà, où il y a tous ces graffitis
qui est magnifique.
Très berlinois, on va dire. Mais il y a aussi ce sous-sol aussi où j'avais vu une exposition que je trouve incroyable. Où je crois d'ailleurs ils ont planifié de faire des soirées bientôt, je crois.
Oui, mais il y a toujours eu de très belles fêtes au Palais de Tokyo. Bah écoutez, on va y entrer. Le Palais de Tokyo, le centre d'art contemporain de Paris. À tout de suite.
Frédéric Taddeï en balade avec Philippe Jaroussky sur Europe 1.
Nous sommes à l'intérieur du Palais de Tokyo, qui date de l'exposition universelle de 1937. Architecture monumentale, 22 000 mètres carrés même, hein, consacrée à l'art conceptuel, aux installations, à la vidéo, la sculpture, le design, la danse. Il y a en ce moment une grande exposition, Futur ancien fugitif, une quarantaine d'artistes de la scène française. Mais vous, ce qui vous intéresse, Philippe Jaroussky, c'est la crypte.
C'est le sous-sol. Non, parce que j'étais déjà venu voir une exposition et je ne connaissais pas du tout cette surface, il y a encore tout le derrière. Et d'abord, je trouve que, oui, évidemment, il y a cette architecture épurée, pas terminée aussi. Il y a quelque chose de brut comme ça. Et je ne sais pas pourquoi j'ai toujours aimé, par exemple, les friches industrielles ou les usines désaffectées ou les choses comme ça. Et j'aime beaucoup cette ambiance comme ça, un petit peu mystérieuse, un peu presque un peu étouffante, un petit peu... Il y a un côté aussi un peu futuriste, un peu désabusé.
Oui. Là, il y a une sculpture tout en bas.
Et c'est, je trouve que c'est un lieu très impressionnant et aussi très moderne pour l'époque, quand on sait qu'il a justement été construit en 1937.
Ce sont des sculptures de Linda Sanchez, il y a des projections aussi. Ça me fait penser que vous venez de faire votre entrée au musée Grévin, ça doit faire bizarre, non ? Avoir son clone en cire exhibé devant des enfants.
Mais non, pas du tout, voyons.
Vous confondez avec un footballeur ou avec Manuel Valls. Bah,
disons que là, entre la compilation des 20 ans, le musée Grévin, voilà, l'heure
plus
du bilan.
Le livre d'entretien.
Voilà, le livre d'entretien. Il y a, voilà, il y a effectivement un petit bilan de la quarantaine qui s'impose.
Grévin. Le musée Grévin, ouais. C'est quand même quelque chose. Vous y êtes allé, on vous a modelé le visage.
C'était une super expérience. D'abord, toute l'équipe de Grévin est géniale. Et effectivement, il y a un aspect très, on va dire, scientifique, puisqu'il tourne autour de moi avec une machine 3D. Mais après, il y a aussi tout un côté...
Pour vous enregistrer les moindres recoins de votre
mais
visage.
C'est mon corps, c'est ma réplique parfaite. Ouais. Et puis, il y a aussi tout un travail avec le sculpteur sur la tête, sur l'expression du visage, qui est, elle, beaucoup plus artistique.
Et
après, c'est cheveux par cheveux. Les mains, c'est mes empreintes. Et c'est,
et c'est
vraiment
costume,
un grand travail. Le costume, non, c'est Agnès B. Et d'ailleurs, la dernière fois
votre,
que je suis...
Votre Claude est habillé en Agnès B.
Exactement, c'est chic.
Non, je croyais qu'on donnait un de ses costumes. Moi.
Non, et j'ai eu la chance de rencontrer Agnès qui m'a fait un costume pour moi et mon double. Et d'ailleurs, la dernière fois que je suis venu au Palais de Tokyo, c'était pour voir le défilé d'Agnès.
Ah oui. Donc vous avez vous-même habillé comme votre double. En fait, il a été habillé en Agnès B avant vous.
En fait, oui.
Et vous en sortirez un jour, hein, forcément, du musée Grévin. Comme,
oui.
On en sort. Hein. Aimé Jacquet, par exemple, bah, on l'a adoré, mais
voilà.
Il est sorti.
Alors,
Mao est sorti aussi.
Ils m'ont certifié qu'ils ne détruisaient pas les statues. Hein. Ça, par contre, elles restent dans les...
Oui, on ne sait jamais, ça peut revenir à la mode. Mao ou Dorothée.
Oui, mais c'est vrai qu'on est très peu d'artistes classiques à avoir cette odeur, d'artistes classiques vivants et morts. Parce qu'il y a Callas et Pavarotti, qui sont à Grévin, et il y a Lang Lang...
pianiste chinois.
Voilà, virtuose. Qui vient de rentrer. Et puis, il y a Chichi Abartoli, évidemment, que j'ai rejoint sur la scène du théâtre. Et puis, il y a Renaud Capuçon qui rentre dans quelques mois.
Oui, qui était dans cette émission l'année dernière. C'est vrai que j'en avais parlé avec lui.
Frédéric Taddeï se balade avec Philippe Jaroussky sur Europe 1.
Là, on est dans une grande salle. Il y a une espèce de boîte qui ressemble
mondrianesque.
Voilà l'abstraction géométrique de Mondrian.
Ouais.
Mais je ne pense pas que ce soit Mondrian qui l'ait peinte. Il y a des bâches en plastique soutenues par des cordes. On se dirait dans un village de poupées.
Ouais, c'est assez fascinant.
Le sens de la visite, c'est par là. Il y a un monsieur qui repeint le mur. Mais je ne sais pas si c'est un artiste ou un peintre en bâtiment.
Il y a une bâche, une grande bâche, sur votre droite.
Oui. Je sais pas, on ne sait plus si c'est les travaux ou si c'est une œuvre. Hein. C'est ça un peu la difficulté. Voilà,
on a même un droit à un petit mur new-yorkais en briques rouges. Mais je veux bien imaginer que pour un artiste plasticien, c'est vraiment un endroit très, très inspirant.
C'est quoi vos salles préférées à vous Philippe Jaroussky, maintenant que vous connaissez la Scala de Milan, vous connaissez le Staatsoper de Berlin, vous connaissez à peu près toutes les... L'Opéra House de Vienne, vous le connaissez aussi.
Oui, la Philharmonie.
Salzbourg.
Alors, pour moi, la salle qui me fascine le plus, c'est la Sala San Paolo, à San Paolo, au Brésil. C'est l'ancienne gare de San Paolo qu'ils ont transformée en une grande salle de concert. Et c'est immense et ça sonne divinement bien. À la Scala, il y a un point qui est assez amusant qu'on appelle le point Calas, ouais. Puisqu'il y a un endroit sur la scène où la voix double de volume.
Ah oui,
par donc, magie. En général, les chanteurs se battent pour aller sur ce point, mais c'est vraiment flagrant, c'est assez impressionnant.
Les bruits qu'on entend sur des vidéos hein, qui sont diffusées
c'est pas
sur
nous,
le mar,
hein. C'est pas nous.
Antoine Château notamment, oui, puisque c'est un haut lieu de la vidéo ici. Vous êtes collectionneur, Philippe Jaroussky ?
Alors, je ne suis pas collectionneur. Je dirais que j'apprécie notamment l'art contemporain. Je suis un très grand fan du Caravage.
Oui, donc, c'est plus de l'art.
Oui, même si c'est un moderne, en
l'art
fait.
Classique.
C'est
oui.
Un moderne, comme Monteverdi l'était à l'époque. Mais par contre, j'ai beaucoup allé dans des expos d'art contemporain, mais c'est un petit peu la frustration que j'ai en buvant du vin, en fait. Je sais reconnaître quand c'est du bon vin, mais je ne saurais pas expliquer pourquoi. Et je pense que c'est pareil. Ça s'apprend au fur et à mesure, je pense.
Oui, comme la musique baroque, regardez-nous le grand public, parce que je me range dedans, on ne fait pas du tout la différence entre la musique baroque et puis Wagner. Pour nous, tout ça, c'est de la musique classique.
Oui, et ce qui m'énerve le plus quand je dis à quelqu'un que je fais de la musique classique et qu'il me répond j'adore écouter la musique classique pour me relaxer. Moi, ça ne me relaxe pas du tout. Une symphonie de Shostakovich, Le Sac du Printemps ou Tristan et Isolde de Wagner, ça ne me relaxe pas du tout. Et c'est vrai que ça, c'est un petit peu l'image qu'on essaye en général de combattre, ce côté un peu, on écoute la musique classique pour faire de la sophrologie un peu. Et ça m'agace.
Bah, on va vous écouter tout de suite, mais pas de la musique relaxante. On va vous écouter avec M, chanter cet air.
Même morceau. Si c'est très relaxant de chanter avec Mathieu.
Oui, mais ce morceau figure également dans votre passion Jaroussky, cet ensemble de trois CD qui vient de sortir. C'est tout à fait nouveau, ça, on ne l'avait jamais entendu.
Oui, et j'avoue que quand j'étais un jeune chanteur, j'étais un petit peu un intégriste à ma manière du baroque. Il ne fallait pas
les chanter avec les chanteurs de variété, c'est ça?
Oui, j'avais même parfois tendance à critiquer ceux qui faisaient, comme on dit, du crossover.
Comme Roberto Alagna ou Pavarotti l'a fait
et
aussi,
en fait,
chanter tout à coup des airs pop.
Et en fait, j'ai de plus en plus de plaisir à collaborer avec des artistes que j'estime. Et Mathieu, évidemment, est un excellent musicien.
Ça s'intitule « Cet air ».
Frédéric Taddeï se balade avec Philippe Jaroussky sur Europe 1.
Cet air, t'en souviens-tu? Ce bel instant perdu d'un Paris qui n'est plus. Cet air, t'en souviens-tu? L'odeur d'un matin nu, d'un mari dévêtu. Mais pars et ne te retourne pas. Chaque fois qu'une chose est sifflée, un morceau de ta vie est passé. Tu le retrouveras.
ces terres, t'en souviens-tu? Se perdre dans les rues, dans un son continu. Ces terres, t'en souviens-tu? Souffler le soir, souffler le soir, vers ceux qui ne sont plus. Siffler, un morceau de ta vie est passé. Va, va, et tu le retrouveras. La douceur de sa main. Chaque fois qu'une chose est sifflée, un morceau de ta vie est passé. Oui, pars et ne te retourne pas. Chaque fois qu'une chose est sifflée, un morceau de ta vie est passé. Va et tu le retrouveras.
Cet air interprété par M et par Philippe Jaroussky. On poursuit notre balade dans un instant avec Philippe Jaroussky.
Tu le retrouveras.
Nous sommes remontés au rez-de-chaussée du Palais de Tokyo avec Philippe Jaroussky dans l'exposition Futur ancien fugitif, une scène française. Il y a une quarantaine d'artistes qui sont exposés. On est devant un mur.
Un mur de mur, on peut
un
dire.
Un mur de mur, exactement. Ce sont des photographies de murs noirs, très belles, brillantes. Au départ, vous étiez dessinateur. J'imagine que ce que vous dessinez, vous aviez 10 ans. Ça devait ressembler un peu à cette œuvre de Jean-Charles de Quillac, non?
Bah, je faisais des drôles de trucs. J'adorais créer. Quand j'étais petit, ma mère a retrouvé des dessins où je faisais des intérieurs d'êtres humains avec des noms d'organes étranges. Il avait un petit côté Dali.
On dirait un peu l'intérieur d'être humain,
ouais,
non?
Ouais, ouais, ouais.
Voilà, il y a encore des vidéos. Ça peut ressembler à des jeux vidéo, d'ailleurs. Il y a des cerfs-volants bizarres. Des dessins. Vous étiez un obsessionnel du dessin, vraiment?
J'étais un obsessionnel du dessin. Il paraît que j'enlevais même pas mon manteau en sortant de l'école et je dessinais beaucoup. Et malheureusement, je dessine plus. Je le regrette un peu.
Mais pareil, vous étiez un assez bon copiste, Van Gogh notamment, Picasso.
Ouais, j'ai bon, tout appris un peu en autodidacte.
De copier Picasso que de copier en fait, Léonard de Vinci.
Ça a toujours été ma frustration en fait. J'ai toujours voulu m'essayer à la création, même en musique. À un moment, je m'imaginais compositeur quand j'avais 17 ans. Et puis je me suis vite rendu compte que ça sortait pas assez facilement l'inspiration. Donc je me suis cantonné à cet état d'interprète qui me va bien.
Oui, au fond, on peut avoir de grandes satisfactions aussi, non?
Oui, et de faire découvrir de grands créateurs. Mais c'est vrai que, pour moi, la création, c'est vraiment le sommet de l'art, évidemment.
Frédéric Taddeï se balade avec Philippe Jaroussky sur Europe 1.
Là, on entre dans une pièce sombre avec des écrans... C'est fini, c'est trop vieux, vous êtes d'accord? Les distinctions, ça n'existe plus.
Oui, mais il a quand même dit Van Gogh au début.
Est-ce que dans la musique classique, il y a des chapelles, il y a des familles, on s'oppose? Est-ce qu'on serait capable, comme l'ont fait les fans de rock dans les années 70, au moment de la mode de la disco, de prendre tous les disques de disco dans un grand stade et de les brûler, par exemple?
Il y a eu des mondes qui se sont opposés à un moment. Il y a eu notamment les courants de musique contemporaine, justement, qui se sont beaucoup aussi entre déchiré, entre la musique sérielle, musique...
Oui, bah, du temps de Pierre Boulez, il était interdit aux autres compositeurs de musique contemporaine de jouer ou d'être joué sur le territoire français, voilà, il faut le savoir.
Quand et même. En baroque, ça a été pareil. À un moment, quand on a redécouvert le baroque, il y a eu vraiment une sorte d'intégrisme. Et puis finalement, maintenant, vous avez des orchestres, on va dire, symphoniques modernes qui jouent du baroque, dirigés par des chefs baroques. Et puis, il y a des orchestres baroques qui se lancent aussi dans d'autres répertoires. J'ai l'impression que les choses se sont un petit peu adoucies ces derniers temps là-dessus. Mais bon, c'était pas d'une violence extrême non plus, je vous rassure. Et
par exemple, quand on dit que Céline Dion est capable de chanter la Traviata, ça doit vous agacer un peu, non ?
Oui, ça m'agace parce que le fait de ne pas pouvoir chanter la Traviata ne veut pas dire qu'elle n'a pas de talent, évidemment. Et d'ailleurs, j'ai pris des billets pour aller l'écouter. Je suis très curieux de l'écouter pour la première fois l'année prochaine à Paris. Mais le métier n'est pas le même. Dès qu'on a un micro, ce n'est pas du tout la même façon de faire. Et moi, le premier, je suis de plus en plus fasciné par des artistes qui chantent avec un micro parce que comme ils n'ont pas ce souci de la projection...
La
projection de la voix dans la salle de manière directe, ils peuvent mettre beaucoup plus de sentiments dans le mot, être moins obsédés par juste le son. Et je suis devenu depuis on va dire une dizaine d'années un très très grand fan de grandes voix de jazz, de Sarah Vaughan, de Ella Fitzgerald, parce que ça me parle et je trouve que certains chanteurs, notamment de jazz, ont souvent bien plus de rythme que nous, les chanteurs classiques, des fois, qui sommes parfois un peu approximatifs avec le rythme. Toujours cette caricature du chanteur qui, quand il a un aigu, va passer son temps dessus jusqu'à l'infini. Il y a toujours cette blague du chef d'orchestre qui fait répéter avec une soprano. Et il joue le morceau une première fois. Et le chef d'orchestre dit... Alors là, vous ralentissez à telle mesure, là, vous montez d'une tierce, là, vous accélérez, et la chanteuse se retourne et demande au chef, et moi, je fais quoi ? Il dit, vous ne changez rien, surtout. Donc, c'est vrai que...
C'est ce qu'on appelle une blague de musicien classique, tout le monde ne peut pas comprendre.
Voilà,
c'est
mais comme ça veut dire que souvent, les chanteurs, surtout à l'opéra, une fois qu'ils sont sur scène, ils ont parfois tendance à faire un peu ce qu'ils veulent.
On se retrouve juste après les infos avec Philippe Jarouski. On continue notre balade vers la scène musicale. Dans l'île Seguin,
qui est aussi en béton.
Également en béton.
Europe 1, en balade avec Philippe Jarouski, Frédéric Tadéhi.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec Philippe Jarouski qui fête ses 20 ans de carrière avec un triple CD, Passion Jarouski chez Erato, un livre d'entretien intitulé « Seul compte la musique » chez Papier Musique et qui fait son entrée au musée Grévin. Nous sommes en route pour la scène musicale à Boulogne où vous avez votre académie, l'Académie Jarouski, on en parlera là-bas. Mais d'abord, Philippe Jarouski, petit retour en arrière, vous avez 30 ans, grâce à Vivaldi, dont c'est, on le disait, la Vivaldi Mania, vous êtes une star, l'un des trois chanteurs lyriques français les plus connus dans le monde, avec Roberto Alagna et Nathalie Dessay. Est-ce que votre vie a changé à partir de là ?
Oui et non, je dirais. Peut-être parce que je faisais de la musique baroque et que je suis dans un milieu un petit peu différent. J'ai fait aussi beaucoup de concerts et un peu moins d'opéra, donc j'ai réussi à maintenir, on va dire, une vie presque normale. Enfin, j'ai essayé. Et puis, oui, la vie, elle a changé beaucoup parce que j'ai beaucoup voyagé. J'ai voyagé très tardivement. Moi, la première fois que j'ai pris l'avion dans ma vie, j'avais 21 ans. Je me suis bien rattrapé depuis. Et j'ai découvert plein de continents, de cultures. Et ça, c'est vrai que c'est la chance que m'a donné ce métier. Ça m'a transformé aussi, je pense aussi, beaucoup ma personnalité. J'étais un garçon plutôt réservé, sage, bon élève à l'école.
Vous êtes devenu une sorte de rockstar drogué et débauché.
Non, on va pas dire ça, mais on va dire que je suis devenu quand même plus extraverti et que c'est vrai que la musique m'a et ce métier de chanteur m'a permis de m'exprimer, de me révéler en quelque sorte et je pense aussi de quand on chante, on doit maintenir une certaine joie intérieure parce que sinon on peut pas chanter tout simplement. Donc ça fait partie presque de mon travail d'être joyeux, on va dire.
Et en lisant votre livre d'entretien, Seule la musique compte, j'ai découvert que votre plus gros excès à ce moment-là, ça a sans doute été de vous acheter un studio de 30 mètres carrés.
Oui.
C'était pas Mick Jagger, quoi.
Non. Mais ça a été une décision, je me rappelle, à l'époque, quand j'ai décidé de faire la musique, c'était l'inconnu, je savais pas du tout où j'allais. Et j'ai eu la chance, grâce notamment à Jean-Claude Magoire, qui m'a offert mes premiers contrats de chanteur, d'avoir mon statut d'intermittent très jeune, à l'âge de 20 ans. Et du coup, mes parents m'ont conseillé très vite d'acheter, même petit, parce qu'on me disait, on ne sait jamais de quel va être ton avenir, ton futur de musicien. Et je ne regrette pas d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça... C'était mon premier appartement de Parisien et j'étais très heureux dans cet appartement.
Et à quelle tentation vous a-t-il fallu résister en devenant une vedette ?
Quelle tentation ? Déjà, la première tentation, c'est de penser que ça y est, on y est et qu'il ne faut plus travailler. Alors effectivement, dans la musique classique, on a peut-être moins tendance à se reposer sur ses lauriers, mais quand même.
Il faut dire que vous avez encore votre professeur, vous. Oui, hein, et ouais, c'est la fait, même depuis vos débuts.
La Nicole Fallien, ça fait... plus de 20 ans que je travaille avec elle. Elle alors m'a donné mon premier cours de chant.
Donc alors que vous avez chanté sur les plus grandes scènes du monde, vous avez toujours un professeur.
Oui, c'est très important, mais ça étonne pour un chanteur, mais ça étonnerait pas d'un sportif qui a toujours son entraîneur à côté de lui pour rester au plus haut niveau. Donc c'est à peu près la même chose.
Oui, c'est vrai. Autre tentation à laquelle il a fallu résister ?
Peut-être un moment la tentation de baisser les bras. Il y a quand même une certaine pression, comme on l'a évoqué tout à l'heure dans ce milieu. Dès que vous n'êtes pas en forme, on pouvait avoir des mauvais papiers ou des choses un petit peu blessantes. Et puis, au final, ça n'a pas été si compliqué pour moi. La tentation aussi, peut-être, effectivement, justement, moi je dis toujours... ces fameux moments où je dis d'ailleurs en vrai que je fais la fête ou que, j'appelle souvent ça les soirées tue la voix. J'ai besoin parfois de tuer ma voix et de l'oublier pour pouvoir après voilà, j'ai besoin de temps en temps de ces bouffées d'oxygène où j'oublie que je suis chanteur et que je peux aller dans un bar parler fort avec des amis, rire,
pas
chanter, justement.
Au cours de ces plus de 20 ans de carrière, vous avez eu des mauvaises périodes
Plutôt au début, je dirais. Que,
des doutes, des problèmes de santé ou d'insuccès.
Oui, au début, c'était que du bonheur, parce qu'évidemment, je n'avais pas du tout conscience de ce que c'était finalement la carrière d'un chanteur sur le long terme. Donc je chantais un petit peu à l'instinct, et puis ça fonctionnait. Et puis au bout de 2-3 ans, je l'ai un petit peu payé, j'ai commencé... à être un petit peu malade. J'avais souvent ce qu'on appelle la chose terrible pour un chanteur d'opéra, des reflux gastriques qui vous brûlent la gorge, des inflammations, des extinctions de voix. On disait toujours que c'était psychologique. Alors après, le résultat, il n'est pas psychologique, hein, vous avez vraiment la gorge enflammée. Mais c'est vrai que, curieusement, je suis beaucoup moins malade qu'avant.
Et des périodes d'insuccès ou de doute
Ça, je dois avouer que j'en ai pas eu beaucoup. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu aussi la chance que finalement, ça fait 20 ans que je chante et je suis à peu près entouré des mêmes personnes depuis le début qui m'ont soutenu très très tôt. Ma professeure, ma maison de disques, mon agent. C'est toujours les mêmes depuis 20 ans. Je me rendais compte de ça justement à l'inauguration de la statue du musée Grévin où je me disais, mais en fait, je regardais les gens devant moi, je me disais, c'est formidable. C'est toujours les mêmes après 20 ans.
Eh bien, on s'approche de la scène musicale sur l'île Seguin. On se retrouve dans un instant avec Philippe Jarouski. Notre taxi nous a déposé devant la scène musicale sur l'île Seguin à Boulogne, un long bâtiment de près de 300 mètres carrés en forme de vaisseau sur la pointe aval de l'île à Boulogne-Billancourt. C'est ici que se dressaient naguère encore les usines Renault et on est juste devant un pouce de César, un grand pouce, hein, il est assez haut, il est tout doré, on peut se voir dedans, il fait 6 mètres de haut quand même, hein. C'est grand.
Ouais, c'est un grand pouce.
Alors, par où rentre-t-on
Alors, pour rentrer à mon académie, on peut longer la Seine. Ouais. C'est sur le côté. Et voilà, c'est un bâtiment qui a pris une grande importance pour moi ces 3 dernières années, on va dire.
Depuis que vous avez créé, je me souviens, vous aviez annoncé sa création, d'ailleurs, sur Europe 1, dans le Social Club que j'animais à l'époque.
Oui, c'était encore un projet un peu utopique qui est devenu une réalité. Et j'en suis, je dois dire, très fier, parce qu'on a cette année, on tourne à plein régime avec 75 enfants qui apprennent la musique gratuitement. Et puis toujours la section Jeunes Talents, qui est une section de 24 jeunes musiciens. à qui on essaye de donner, pour faire un mauvais jeu de mots, un coup de pouce dans leur début de carrière.
Eh ben, on va les voir, mais c'est aussi une grande salle de concert ici. Il y a une salle de 4000 places, oui, il y a l'auditorium de 1500 places. Magnifique, en bois tressé, vous
voilà,
avez chanté.
En forme de nid, oui, oui. J'y ai chanté il y a quelques jours, le 11 décembre, en compagnie de mes étudiants.
Vous vous documentez beaucoup avant de chanter, Philippe Jarowski. Est-ce que vous voulez tout savoir du rôle, de l'œuvre, du compositeur ?
Alors, je me documente sur ça. Après, quand on interprète un rôle, on essaye de ne pas trop écouter d'enregistrement avant. Parce que c'est vrai que ça peut influencer considérablement sa vision des choses. Et en fait, pas forcément dans le bon sens, parce que l'idée d'un artiste, évidemment, n'est pas essayer d'imiter ce que ferait quelqu'un d'autre, mais d'essayer de faire quelque chose qui nous corresponde. Donc voilà, au bout d'un moment, il faut arrêter d'écouter les enregistrements des autres.
Mais est-ce que vous voulez tout savoir sur le musicien, sur le compositeur, sur...
Oui, alors dans le baroque, moi, comme j'ai toujours été un petit peu curieux, j'ai été très très vite un rat de bibliothèque. J'aime beaucoup aller voir les partitions moi-même. Maintenant, je le fais plus sur Internet parce qu'il y a énormément de manuscrits qui sont mis à disposition. Là, on a vu récemment le drame de la bibliothèque de Venise où il y a plein de manuscrits, notamment de musique, qui ont été dévastés par les inondations. Ouais. Et donc ça m'a fait un petit peu mal au cœur.
On remonte toujours hein, le vaisseau dont je parlais, puisque là on arrive seulement à l'entrée de l'Académie Jarowski.
Exactement, là, c'est les bureaux très, très avec long, mon équipe.
Ouais. Et encore, on n'est pas tout au bout, il y a encore...
Non, c'est très
continue,
très grand, c'est
continue.
Un bâtiment que je trouve très réussi.
Europe 1, 11h30, en balade avec Philippe Jarowski, Frédéric Taddeï.
Académie musicale Philippe Jarowski, nous rentrons, bonjour. Bonjour.
Voilà, c'est toute mon bonjour. Équipe.
Voilà, vous avez de la chance
voilà,
de...
Sébastien, Laura, Eglantine.
Bonjour. Vous donnez sur la scène, enfin là il y a une palissade parce qu'il y a des travaux.
Oui, il va y avoir des grands travaux parce qu'il y a un deuxième pont qui va être construit dans les prochains mois. Et là, vous pouvez voir, sur les murs, tous nos charmants bambins. On fonctionne en promotion, en fait. Chaque année, on essaie de donner un nom de promo, un peu comme les grandes écoles. Donc, la première, c'était Mozart. La deuxième, c'était Vivaldi. Et cette année, c'est la promotion Ravel, un Français.
Pas Schubert que vous allez chanter pour la première fois là.
Non, mais la prochaine, c'est un scoop. Hein, c'est pas un scoop énorme, mais la prochaine promo, ce sera la promo Beethoven pour c'est un peu terminer l'année Beethoven.
Sur Passion Jarowski, on vous entend chanter Stenchen, Sérénade de Schubert. C'est sa dernière chanson d'amour avant sa mort.
Oui,
à 31 ans, il est mort très très jeune.
Oui, c'est ça qui est fascinant. On se dit, il aurait vécu ne serait-ce que 3-4 ans de plus, un peu comme Mozart, c'est la grosse frustration. Heureusement, ils ont commencé à composer très très jeune. Ce qui est très impressionnant, c'est Schubert, c'est qu'il a écrit plus de 600 lieder, qui correspondent aux chansons, on va dire. Et elles sont magnifiques, et c'est un petit peu mon nouveau challenge. Je vais tourner tout le mois de janvier et le mois de février avec, et je suis un petit peu fou parce que je vais aussi les chanter en Allemagne, donc c'est un gros gros pari.
On vous écoute chanter Sérénade de Schubert. Zu dir in den stillen Hainem Meer, Liebchen, komm zu mir, flüstern schlanke Wipfel. Fürchte beide nicht C'était Stanchion, Sérénade, l'un des plus célèbres leaders de Schubert, composé juste avant sa mort, un titre que vous interpréterez donc en tournée toute l'année prochaine, Philippe Jarouski. On va aller rejoindre vos élèves alors.
Oui, avec plaisir.
On y va. Nous sommes toujours à la scène musicale, à l'Académie Jarouski. On va maintenant aller voir vos élèves, cette ribambelle d'enfants qui apprend la musique grâce à vous.
Et moi, ça me replonge souvent plus de 20 ans en arrière, parce que moi, j'ai commencé le violon à 10 ans. Et on oublie tous, nous les musiciens, qu'il a bien fallu qu'on commence par appuyer sur une touche. Et c'est souvent le plus dur.
Les enfants de l'Académie Jarouski, ils ont quel âge à peu près ?
Alors, c'est variable. On va dire qu'ils ont entre 6 et 12 ans, à peu près. Et ils étudient le violon, pour l'instant, le violoncelle et le piano. Et peut-être, on nous verra à plus d'instruments dans le futur.
Je me souviens que vous nous aviez dit, dans le Social Club, à l'époque, quand vous aviez ouvert cette académie, que la place des femmes avait beaucoup évolué dans la musique classique, mais
oui.
Qu'en revanche, côté mixité sociale, il y avait beaucoup de progrès à faire, et ça avait l'air d'être une de vos motivations pour créer cette académie.
Oui, ça bouge beaucoup. On se plaint toujours qu'il n'y a pas assez de mixité sociale dans le public, et je suis convaincu qu'il faut aussi traiter la mixité sociale sur la scène. Et pour que les gens s'identifient, tout simplement aussi. On l'a ça dans le football, tout simplement.
Oui, ça manque de grands bourgeois, peut-être, dans le football.
Peut-être. Mais en tout cas, voilà, c'est devenu populaire aussi parce que voilà, beaucoup de gens peuvent s'identifier aux histoires des footballeurs. Et de toute façon, le projet de l'Académie aussi, il n'est pas forcément de créer que des futurs petits virtuoses. Mais je suis convaincu que l'apprentissage de la musique, on le sait, leur fait faire des progrès aussi à l'école. Parce que c'est tellement différent que ça leur donne confiance en eux à l'école. Et puis, voilà, je suis convaincu que de toute façon, faire rentrer la musique dans la vie d'un enfant, je suis sûr que ça peut être qu'enrichissant.
Vous-même, vous avez grandi à Sartrouville, une commune assez populaire dans les Yvelines.
Oui.
Il y a eu des émeutes en 91.
Oui, il y a eu pas mal de voitures qui ont brûlé. Oui,
vous deviez avoir quoi, 13-14 ans à l'époque.
Exactement, oui. C'est pas moi. J'étais déjà très sage. Mais j'ai eu la chance par contre d'avoir un conservatoire municipal à 3 minutes de chez moi avec des profs géniaux et sans ça j'aurais pas fait de musique et c'est ça aussi que j'essaye de défendre aussi parce qu'on met beaucoup en question aussi ces conservatoires municipaux, les subventions, les cours et moi je suis convaincu que si on coupe la base de la pyramide on pourra jamais avoir des gens qui arrivent en haut tout simplement.
Et les enfants qui sont ici, vous les recrutez comment ?
On travaille beaucoup avec les centres sociaux, on reçoit les familles, on a évidemment des candidatures, on écoute aussi les enfants. On choisit évidemment, on dirait sélection, discrimination positive. On dira évidemment que si papa et maman sont tous les deux avocats, on va pas les prendre, on va prendre plutôt des gens qui peuvent pas se payer, parce que ça coûte pas très cher à la base au départ, hein, mais c'est des instruments qui coûtent entre 500 et 800 euros, Mais si vous avez plusieurs enfants, plus les cours, plus les partitions, ça, c'est pas possible, tout simplement. Donc voilà, on privilégie vraiment ça, et on privilégie aussi beaucoup des enfants qui commencent totalement. Donc on part pratiquement d'une page blanche.
Eh bien, entrons dans le studio 4.
Alors, on va aller voir peut-être Hélène d'abord. Donc Hélène qui est prof de piano.
C'est la salle Maria Callas.
Il y a beaucoup de monde là aujourd'hui.
Donc là, Hélène, c'est des enfants qui sont en première année.
C'est des enfants qui sont en première année. Donc
on commençait en octobre.
Oui, donc c'est des enfants qui ont tout juste 2 mois de piano dans les doigts. Donc c'est leur première cours en public comme ça, impressionnant.
Super.
C'est le piano, c'est vous qui avez choisi le piano?
Oui.
Pourquoi?
Parce que ça me vient.
Et vous?
Oui, j'ai choisi le piano parce que j'aimais bien les touches aussi. Et ça me plaît, ce son.
Yasmine a quand même la particularité la dernière fois de me dire dans le cours, c'est bien maintenant que j'ai le piano, parce qu'avant je m'ennuyais, je regardais la télévision, maintenant quand je m'ennuie, je vais au piano. Vous imaginez une enfant dire ça?
Et vous jouez quoi quand vous ennuyez?
Bah moi c'est pour mon petit frère. Bah je joue aussi des morceaux.
Ça l'endort?
Bah oui.
Bah merci, on vous laisse travailler. Merci beaucoup. Au revoir, Rayana.
Au revoir.
À bientôt.
Au revoir, Yasmine. Donc, vous êtes bien occupé, Philippe Jarouski, mais vous faites quoi, vous, exactement, dans cette académie?
Oh, c'est méchant, ça, Frédéric.
Non, vous n'êtes ni prof de piano,
alors,
ni prof
entouré
de violon.
Alors, non, alors, évidemment, pour les enfants, je suis un petit peu de loin, mais je les écoute 2-3 fois par an. Pour voir un peu les progrès, discuter un peu avec les professeurs. Et puis, avec 3 autres collègues, David Cadou, Geneviève Laurenceau et Christian-Pierre Lamarca, on donne des cours aux grands. Donc, je suis tous les ans 6 chanteurs que j'auditionne, en général en mai, et je les suis pendant 1 an. Et c'est une expérience humaine assez riche, je dois dire, assez intense.
Vous nous avez dit tout à l'heure, vous allez avoir 42 ans, c'est l'âge où Jean-Sébastien Bach a composé sa Passion selon le Saint-Matthieu. Vous, quels sont vos projets?
Alors, les projets, on a évoqué tout à l'heure le projet de direction.
D'orchestre.
À cœur. J'ai mon ensemble depuis 15 ans, Arta Circé.
Comme les acteurs, ils veulent tous devenir réalisateurs.
Peut-être,
vous voulez tous devenir chef d'orchestre.
J'ai pas forcément envie de devenir le vieux chanteur qu'on écoute avec condescendance et on se dit, c'était mieux avant.
Le chef d'orchestre qu'on écoute avec déférence.
Disons, je préfère devenir un jeune chef qu'un vieux chanteur, probablement. Et puis, on va créer une deuxième école à Pantin, qui ouvrira ses portes dans 2-3 ans également. Donc, l'académie va grandir.
Eh bien, merci Philippe Jarouski de nous avoir emmenés en balade avec vous. Je rappelle vos 3 concerts au Théâtre des Champs-Élysées, le 24 janvier, Les Leaders de Schubert, le 30 avril, Monteverdi, le 15 mai, Handel et Vivaldi. Puis il y a d'autres dates en province, mais mieux vaut aller sur votre site. Je ne peux pas toutes les citer. Il y a également le triple CD Passion Jarouski, sorti chez Erato, et Seul compte la musique, votre livre d'entretien avec Vincent Agrèche, paru chez Papier Musique. Seul compte la musique, vraiment?
Oui, au final, oui. J'en suis convaincu. Je pourrais pas vivre sans musique.
Merci, Philippe Jarouski. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très bon dimanche. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 11h pour une autre balade.